France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Il présente les symptômes d'un nouveau coronavirus. Une vingtaine de Français parmi les 64 rapatriés hier de Wuhan se sont pliés hier soir à une série de tests en arrivant en France à Istres. La ministre de la Santé Agnès Buzyn précise que les résultats seront connus dans les prochaines heures alors que le bilan s'est encore alourdi en Chine. 362 personnes au total sont décédées, plus de 14 000 sont contaminées. Le virus s'est propagé dans 24 pays et, excepté en Chine, a tué une personne aux Philippines. Notons également qu'après une longue interruption pour les congés du Nouvel An, les bourses de la Chine continentale se sont effondrées à leur ouverture hier soir de presque 9%. À Londres, l'assaillant venait tout juste de sortir de prison. Il y était incarcéré pour des délits terroristes. Dans la foulée, il a attaqué hier en début d'après-midi des passants à Londres. 3 sont blessés au couteau, dont 1 est dans un état grave. Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit annoncer aujourd'hui des changements pour les peines des auteurs d'actes terroristes. Face aux djihadistes du Sahel maintenant, la France renforce l'opération Barkhane. Elle envoie 600 hommes supplémentaires, faisant passer la force de 4500 à 5100 hommes d'ici la fin du mois de février. Après le bras de fer entre gouvernement et syndicats, c'est à l'Assemblée nationale que va se disputer le texte de la réforme des retraites. Une commission spéciale commence ses travaux aujourd'hui lundi et il s'annonce fastidieux et houleux. 22 000 amendements ont été déposés, en grande partie par l'opposition qui souhaite faire obstruction au texte qu'elle estime inachevé. La conférence sur le financement du futur système de retraite doit en effet prendre fin dans 3 mois, c'est-à-dire après l'examen du texte. Notons enfin le triomphe de Sam Mendes au BAFTA hier soir, l'équivalent des Césars britanniques. À une semaine des Oscars américains, le film 1917 repart avec 7 récompenses, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Le film bat ainsi Joker, réalisé par Todd Phillips.
10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail, c'est à podcaster tous les lundis, enfin sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Tous les jours à 15h sur France Culture, la compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Leur coiffure tellement british, ils les avaient adoptées au retour d'un voyage à Paris. Leur costume de garçon sage, c'est leur producteur qui les leur avait imposé. Les Beatles derrière la légende, on en parle jusqu'à jeudi et il ne sera pas seulement question de leur look.
12 ans de carrière, 12 albums, autant de classiques, les Beatles dans la compagnie des œuvres et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, le rendez-vous de l'actualité culturelle en France. Et c'est tous les jours de la semaine, très tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par le podcast, l'abonnement au podcast ou l'écoute en ligne disponible, entre autres sur franceculture.fr. Aujourd'hui, j'ai l'extrême privilège de retrouver Karine Giebel avec son dernier roman « Ce que tu as fait de moi » édité chez Bellefond. Elle nous plonge dans une drôle d'histoire, une histoire de passion amoureuse, une passion amoureuse et destructrice. On en parle dans un instant. Et puis en deuxième partie, on retrouve Oriane Jeancourt du magazine Transfuge pour ses coups de cœur. Théâtre, cinéma, musique. Le Réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Philippe Cocher.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Karine Giebel.
Bonjour.
Alors, il y a tout juste un an, on s'était vu pour votre précédent roman. Et on a beaucoup parlé du thème de l'esclavage moderne et plus précisément de la servitude domestique, puisque votre polar abordait l'histoire le destin d'une petite fille marocaine vendue à l'âge de 9 ans et qui grandissait au fil des pages de votre roman. Toute blesse, la dernière tue, chez Belfond également. Alors pour votre roman, celui qui vient de sortir, tout aussi dense, tout aussi épais, près de 600 pages, Ce que tu as fait de moi, est-ce que vous allez me dire que vous avez enquêté auprès des femmes battues ou de la violence à l'intérieur des commissariats de police ou de la passion amoureuse qui peut être destructrice, pour ne pas dire meurtrière?
Ben, j'avais vraiment envie, je suis partie du thème de la passion. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre autour de ce thème-là. Donc après, ça a été une question de choix. J'ai décidé que ça se passerait effectivement dans le milieu de la police. J'aurais pu choisir autre chose, mais je trouvais que ça s'y prêtait bien. Voilà. Et alors, je n'ai pas eu d'enquête spécifique à mener. Sauf que j'ai été aidée par un policier pour, disons, décrire au mieux le quotidien d'une brigade des stupéfiants, puisque ça se passe au sein d'une brigade des stupéfiants.
Et des violences qui peuvent s'exercer sur des policières, par des policiers à l'intérieur des commissariats.
Alors ça, je crois que, en fait, non, pas spécifiquement. C'est-à-dire que je crois dans tous les milieux professionnels, il peut y avoir effectivement des jeux de pouvoir d'emprise ou du harcèlement ou des violences sur les femmes, mais c'est pas spécifique au milieu de la police.
Sujet ô combien d'actualité.
Voilà, et ce qui est drôle, c'est que ce livre-là, l'idée et le commencement de ce livre date d'il y a une douzaine d'années, et donc après je l'avais laissé de côté, et j'avais attendu, je crois, le bon moment pour l'écrire. Donc à l'époque, on ne parlait pas tellement de ça, il n'y avait pas le fameux MeToo qu'on a maintenant beaucoup dans l'actualité, et il se trouve que l'année dernière, enfin en début d'année, j'ai repris ce livre, je l'ai réécrit, je l'ai continué et je l'ai terminé. Et aujourd'hui, il paraît, et aujourd'hui, effectivement, on parle énormément du MeToo, alors que mon but à moi, c'était plutôt de faire vraiment un roman noir sur la passion destructrice. Voilà, c'était vraiment ça pour moi le centre de ce roman. Et c'est vrai qu'il y a un thème connexe qui est vraiment ce harcèlement ou cette violence qui peut être faite également sur les femmes.
Le roman se présente comme un double huis clos, parce que quand ça commence, l'irréparable a été commis. Hein. Je dirais bien sûr pas de quoi il s'agit. Et de part et d'autre, on est en train d'interroger, c'est des interrogatoires purgatoires d'ailleurs, vous le dites à un certain moment, le commandant Richard Menville, qui est le grand patron des stupes, et dans une autre pièce, le lieutenant Laetitia Graminski. Et voilà, une femme, un homme, une passion amoureuse, et quelque chose de très grave qui s'est passé. Et au fur et à mesure de leur interrogatoire, de leur confession, on apprend des choses et sur leur vie, et sur leur relation amoureuse. Et puis après, ensuite, on vous fait confiance, Karine Gébel, pour jouer avec nos nerfs, qui dit vrai, qui dit faux.
Oui, c'était cette structure assez complexe pour l'auteur, mais qui vraiment m'intéressait. C'est-à-dire, je voulais vraiment que ce soit une narration particulière avec ces deux confessions parallèles. On va passer de l'une à l'autre, on va passer d'une pièce, d'une salle d'interrogatoire à l'autre. Et en fait, on va suivre cette histoire qui va être racontée, évidemment, de façon différente. Chacun ne l'a pas vécu de la même manière. Donc, on va avoir un angle de vue différent à chaque fois qu'on change de pièce. Et c'était important pour moi qu'il y ait cet échange et ce transfert entre les deux salles. C'était un petit peu compliqué à mettre en place comme type de narration, mais c'est vraiment ce qui m'intéressait aussi, la complexité de cette forme pour ce roman-là. Ces deux témoignages, ces deux confessions, parce voilà. Que vraiment, les deux vont se confesser.
Et se confesser à des collègues.
Ah ben oui.
Bon,
oui,
ce
oui.
Qui complique quand même pour le lecteur qui est dans une position plutôt confortable au début, hein, puisque il a les deux versions qui viennent, qui se complètent, et puis la violence arrive avec l'amour, parce que c'est quand même l'histoire d'un homme marié qui va tomber amoureux d'une femme qui est elle-même mariée. Et on ne sait vraiment pas jusqu'au bout de ce roman. Ils sont où les jeux de séduction, le jeu de pouvoir, parce que quand même l'homme est son supérieur hiérarchique. Vous mélangez tout ça pour dire que très souvent ça se mêle.
Oui, là on parle vraiment d'une passion, donc
partager ou pas le lecteur, vous le laissez seul avec cette question.
Exactement. Je le laisse seul face à cette question. Et la passion, c'est la souffrance. Passio en latin, compassion, souffrir avec. Donc la passion, c'est la souffrance. Et donc, écrire un livre sur la passion, c'était vraiment écrire une histoire où, en même temps, on se dit, c'est une chance de vivre ça, quelque chose d'aussi fort, mais quelque chose d'aussi douloureux et d'aussi destructeur. Parce que la passion, c'est ça. C'est à la fois fort et très destructeur. Donc, c'était vraiment ça, moi, que j'avais envie d'écrire. C'était tout ce qui va se passer, comment on peut détruire finalement l'objet de son amour.
Ce que tu as fait de moi, c'est le titre du roman, Karine Giebel, mais il y a aussi cette histoire des relations entre hommes et femmes et du pouvoir que peut exercer un supérieur sur sur son équipe et surtout si il a une jeune inspectrice sous ses ordres.
Oui, elle arrive dans l'équipe, elle est stagiaire, elle arrive et puis lui, il a une aura particulière, donc elle l'admire beaucoup, elle voudrait lui ressembler en tant que flic, c'est une sorte de modèle pour elle, donc il y a vraiment, oui, ce jeu de pouvoir qui se met en place, dont lui va essayer donc du coup de profiter, va profiter de ce pouvoir qu'il peut avoir sur elle, mais tout au long du roman, en fait, ce pouvoir va passer de l'un à l'autre parce que ça n'est pas toujours lui qui a le pouvoir. Ouais. Et de maître chanteur, on peut facilement devenir esclave.
Et c'est le cas. À un certain moment, vous citez Alain Fournier, l'amour comme un vertige, comme un sacrifice et comme le dernier mot de tout.
Il y a trois citations dans ce livre, ouais. Effectivement, qui je les ai placées de façon à ce qu'elles illustrent, elles résument un peu ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Donc oui, cette passion est tellement forte que il y a rien qui peut lui résister. Et nos personnages, les personnages de ce livre ne peuvent pas s'y opposer. C'est beaucoup trop fort pour arriver à la vaincre, en fait. Et elle aura le dernier mot.
Alors, parlez-nous des deux protagonistes. On va pas parler du troisième personnage. Parlez-nous du commandant Richard Méninville. Comment il est, cet homme?
Ah, il est très complexe. De toute façon, moi, j'aime les personnages complexes, ni blanc ni noir. Donc, c'est vrai que c'est un personnage. Déjà, c'est ce qu'on appelle un bon flic, c'est-à-dire qu'il essaie de faire son métier du mieux possible.
Il est sérieux, respecté,
voilà,
plutôt aimé d'ailleurs.
Plutôt aimé par ses équipes, un bon flic qui a une très bonne renommée, sérieux. Et puis, un jour, il reçoit du renfort dans son équipe. C'est Laetitia Germinski, qui est une jeune lieutenant, et là, tout va basculer. Mais
comment la décrire, elle?
Elle est très jeune.
Oui, et c'est pas la femme fatale non plus.
Ah non, pas du tout. Elle est très jeune. Elle a un côté un peu encore adolescente, même si elle est mariée, même s'il a une petite fille, mais elle a un côté comme ça un petit peu gamine, surtout quand elle est en face de lui d'ailleurs. Il y a un jeu qui se fait aussi, c'est que on a presque l'impression qu'elle est dans la recherche du père aussi à un moment donné, et que ce Richard, il incarne un petit peu cette image du père. Et y a une grosse différence d'âge entre eux. Encore une fois, elle est en admiration devant lui. Elle aimerait lui ressembler. Elle est prête à tout pour essayer de faire en sorte qu'il soit fier d'elle, etc. Et elle a vraiment un côté, oui, je dirais, presque innocent, un peu puéril parfois. Voilà, c'est presque une gamine encore. Alors que lui, voilà, c'est pas du tout ça. Donc il y a aussi ce choc des générations qui va se produire.
Pendant ce temps-là, c'est-à-dire pendant leur passion amoureuse, destructrice, très violente, et vous décrivez d'ailleurs ces scènes d'une manière crue, Karine Giebel, sans qu'on soit d'ailleurs dans une position de voyeur, parce qu'on sent bien que ces personnages qu'on a connus déjà très détruits dès les premières pages sont passés par des épreuves épouvantables. Vous finissez par les décrire. Et pendant tout ce temps-là, je disais, leur travail de flic continue, hein. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils parlent de cette passion, de ce qui va leur arriver, il faut continuer à travailler.
Et oui.
C'est ça qui est drôle pour un polar, Karine Giebel, c'est-à-dire que toutes ces histoires de trafiquants de drogue, de banditisme, deviennent juste un décor. En tout cas, ils sont relégués au second plan.
Exactement. J'écris jamais d'intrigue policière dans le sens enquête, procédure, c'est pas du tout ça que j'aime écrire. Moi, c'est vraiment dans la psychologie des personnages. Là, il se trouve que je mets en scène deux policiers, plusieurs, puisqu'il y a toute la brigade des stupes, mais les deux qui nous intéressent, c'est vraiment Richard et Laetitia. Et effectivement, on les suit dans leur quotidien. Et leur quotidien, c'est une brigade des stupes. Donc, c'est lutter contre le trafic de stupéfiants. Et effectivement, donc, durant toute cette histoire qu'ils racontent à leur confesseur, on suit aussi leur quotidien de flic. Et les opérations qu'ils sont obligés de mener ensemble, ils sont obligés de travailler ensemble tout au long de l'histoire.
Comment vous écrivez, Karine Gebel? Parce que là, vous venez de me dire que cette histoire, vous l'aviez eue il y a une quinzaine d'années.
Une douzaine d'années. Ouais. Ben, alors, bon.
Mais pourquoi, à cette époque-là, vous n'êtes pas allé au bout de l'écriture de ce roman?
C'est des choses qui arrivent parfois. C'est-à-dire, j'ai l'idée de départ, j'ai ce thème-là, c'était la passion. Je commence à écrire, j'écris une partie du roman, et puis à un moment donné, je ne fais jamais de plan. C'est-à-dire que je commence sur un thème, une situation de départ. Et c'est l'énergie de l'écriture qui va finalement me permettre de construire mon histoire. Et parfois, j'ai besoin de plus de temps. Je me retrouve à un moment où je sens que je n'arriverai pas à finir correctement cette histoire. Je n'irai pas jusqu'au bout. Donc je m'arrête, je passe à autre chose. Mais le livre en question reste dans ma tête. Ça m'est arrivé plusieurs fois.
Mais l'actualité avec l'affaire MeToo, avec les féminicides, la violence, tout ça nous a pas.
Sincèrement, non.
Non, c'est pas ça qui vous a poussé à ressortir.
Cette histoire, je l'avais en moi. Il fallait qu'un jour je la finisse. Et donc il s'est trouvé que je l'ai relu du début, je l'ai retravaillé du début. Et voilà, j'ai senti que c'était maintenant que j'étais capable de l'écrire comme elle est aujourd'hui. Et ça m'est arrivé plusieurs fois sur plusieurs romans de les commencer, de les laisser, de les reprendre. Et donc voilà, ça s'est passé aussi pour celui-là qui a été commencé donc il y a une douzaine d'années à peu près.
Et que vous avez repris l'année dernière. Donc.
Voilà, c'est ça.
Près de 600 pages. Comment vous faites? Vous écrivez toute la journée? Vous ne dormez pas, Karine Gebel?
Je m'impose rien au niveau de l'écriture. Hein. Je n'ai pas d'horaire. Je me dis pas il faut écrire tous les matins ou toutes les après-midi. J'écris vraiment quand l'inspiration est là. Alors quand je suis plongée dans un roman, l'inspiration est là. Mais il y a des jours où je sens que j'écris mieux que d'autres. Donc j'écris vraiment quand j'en ai envie. Je peux écrire 8 heures d'affilée comme je peux écrire 5 minutes dans la journée. Tout dépend vraiment de mon état, de l'inspiration du jour.
Et donc, vous êtes toujours seule face à vos personnages, Karine Gebel?
Oui.
Où il vous arrive de temps en temps de solliciter une tierce personne pour lire un peu, pour voir si le caractère de tel ou tel personnage est crédible?
C'est très rare. Alors je travaille vraiment en grande complicité avec mon éditrice, mais en général, j'attends d'avoir terminé au moins un premier jet pour lui faire lire le manuscrit. Et là, après, on échange effectivement sur les personnages, sur tout le livre, le fond du livre, l'histoire. Mais c'est très rare que je la sollicite pendant l'écriture. Ça peut arriver parfois quand j'ai vraiment des gros doutes. Mais c'est assez rare. En général, on commence le travail en commun quand le premier jet est terminé.
Et quel sentiment vous anime quand vous écrivez des intrigues aussi aussi violente, il faut le dire, Karine Gebel?
Je suis avec mes personnages, vraiment. Ouais. J'essaie de j'ai l'impression de vivre avec eux pendant toute l'écriture du roman. C'est
Mais ils sont dans un sale état, vos personnages, et dès le début de votre roman.
Oui, puisqu'on commence par la fin, donc.
Bah oui.
Alors, effectivement. Oui, mais encore une fois, de toute façon, tout ce que j'écris est très noir. Hein. Je crois que je suis incapable d'écrire autre chose. Je suis incapable d'écrire une comédie, ou en tout cas au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis, en fait je passe par beaucoup d'émotions quand j'écris, et ces fameuses émotions que le lecteur, ben souvent quand les lecteurs viennent me voir, ils me parlent des émotions qu'ils ont ressenties en lisant, et je leur dis mais j'ai ressenti le même type d'émotion moi en écrivant, sauf que ça a duré un petit peu plus longtemps forcément, puisque j'ai mis plus de temps à l'écrire que vous à le lire. Mais c'est ça aussi qui m'intéresse. En tant que lectrice, j'aime les livres qui dérangent, qui bousculent, et en tant qu'auteur, j'aime ça aussi, c'est-à-dire j'aime faire des livres où la complexité, enfin la psychologie des personnages est complexe, où je vais moi-même être passer par des émotions fortes pendant l'écriture. C'est ça qui est intéressant pour moi dans l'écriture.
Et les moments les plus intenses, sans être explicites, les moments les plus intenses de ce roman, ce que tu as fait de moi, Karine Gebel, sont le fruit de votre imagination, de ce que vous avez lu, vu, entendu, ou de ce que vous avez aussi vécu?
Alors, c'est vraiment le fruit de mon imagination. Je n'ai pas vécu une histoire semblable à celle-ci. Je pars jamais d'une histoire vraie ou d'un fait divers. C'est toujours, voilà, souvent un thème, et ensuite, c'est vraiment mon imagination. Voilà. Et je me base pas sur mon vécu, ma vie. Je peux me baser sur des témoignages, mais c'est plus pour être, par exemple, on parlait du précédent roman sur l'esclavage moderne, la servitude domestique.
Là, vous êtes allé voir des associations qui s'occupent effectivement.
Exactement. Là, je me suis basé sur des témoignages. J'ai créé mon personnage et son histoire, mais je me suis basé sur des témoignages pour que ce soit assez réaliste. Là, pour le coup, sur la passion, non, c'est vraiment le fruit de mon imagination.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Vous êtes très populaire, Karine Gebel. Est-ce que la vie des lecteurs compte pour vous?
Bien sûr.
Y compris dans la phase d'écriture?
Non. Alors c'est ça, par contre, c'est quand j'avoue que quand j'écris, ça peut paraître étrange de dire ça, mais je ne pense pas à mes lecteurs. Je suis dans mon histoire avec mes personnages et j'oublie tout le reste. Voilà. C'est quand le livre est prêt, quand il part chez l'imprimeur, que je ne le touche plus, qu'il ne m'appartient plus, donc il va aller vers le lecteur, que là, je commence à me demander est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que ça va leur plaire, est-ce que... Et après, quand j'ai les retours, là, je commence à en avoir, puisqu'il est sorti il y a une semaine, et c'est très important pour moi de voir ce que les lecteurs ressentent.
Mais alors, pendant qu'est-ce qu'ils ressentent, que j'écris,
les premiers retours sont extrêmement puissants, j'allais dire. Les gens sont très touchés par cette histoire. J'ai vraiment des retours assez très très forts en fait depuis une semaine. Ça a commencé, des retours très forts de gens qui...
Alors,
ont...
la fameuse question sous-jacente, est-ce que les hommes et les femmes lisent ce roman, ce que tu as fait de moi, de la même manière?
Alors, j'ai pas encore assez de recul peut-être pour le dire, mais j'ai eu des retours masculins et féminins, des chroniques, notamment de blogueurs, etc. Et en tout cas, il y a la même force des deux côtés, mais peut-être qu'ils l'ont pas ressenti de la même manière. Il faudra voir peut-être avec le temps qui s'attache plus à elle ou à lui. Ça je ne le sais pas encore, c'est trop frais pour ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu des retours à la fois masculins et féminins, et c'est vrai que je suis vraiment touchée parce que c'est des retours extrêmement forts.
Ce que tu as fait de voix de Karine Gebel, édité chez Belfond. Et on retrouve Oriane Jeancourt. Bonjour Oriane Jeancourt, je vous présente la reine du polar, Karine Gebel.
Mais vous n'avez pas besoin de me présenter, bien sûr.
Et bien maintenant, Karine Gebel, on va vous proposer les coups de cœur de Transfuge avec Oriane Jeancourt, qui a lu toute la littérature étrangère, ou du moins presque tout, et vous revenez avec trois propositions, trois choix, trois livres à lire.
Oui, et alors le premier, c'est un auteur russe que j'aime beaucoup et qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il publie peu. Et donc il s'appelle Mikhaïl Chichkin et il publie là enfin Le manteau à martingale et autres récits aux éditions Noir sur Blanc. Alors ce n'est pas un roman, Mikhaïl Chichkin a écrit un certain nombre de romans, il a eu le Booker Prize russe et là ce n'est pas un roman, c'est une série de textes sur la littérature et sur lui-même. Et j'aime bien cette manière qu'il a de mélanger d'une certaine manière l'autofiction et des sortes de fictions, de réflexion sur les auteurs qu'il aime. Alors, le premier texte explique ce titre un peu étrange, Le manteau à martingale. Eh bien, Le manteau à martingale, c'est le manteau qu'il portait lorsqu'il était enfant et qu'il vivait avec sa mère qui était assez pauvre dans la Russie soviétique. Et ils allaient ensemble à la gare pour partir à l'école. Et l'enfant, quand il a eu 6-7 ans, est tombé du quai. alors que le train arrivait. Et sa mère, au dernier moment, l'a rattrapé par la martingale de son manteau. Et il dit toujours que de ce moment où sa mère lui a sauvé la vie, lui a redonné la vie, eh bien, il a gardé une espèce de magie primaire qui le suit jusqu'à aujourd'hui 50 ans. Et donc, il écrit un texte merveilleux sur sa mère, qui était une femme qui a toujours gardé foi en la vie, optimisme, courage, alors qu'elle a été, on peut le dire, assez accablée par la Russie soviétique et par la vie.
Alors, je vais faire comme Karine Gemel, je vais noter Mikhaïl Chichkine. Donc, le manteau en martingale, c'est chez Noir sur Blanc. Un deuxième coup de cœur, Auriane Joncourt.
Oui, alors pour rester à l'Est, c'est Daniel Kellmann. Daniel Kellmann est un auteur allemand et il publie Till chez Actes Sud. Alors Till, c'est un personnage bien connu en Allemagne, assez peu connu en France. C'est un bouffon, un bouffon, mais en même temps un acrobate aussi. Vous voyez, un clown, enfin un homme de spectacle qui, au XVIIe siècle, passait de ville en ville, de village en village et se donnait en spectacle. Il était funambule, entre autres. Et il a beaucoup marqué les esprits parce qu'il était le plus grand funambule de son époque, mais aussi le plus grand clown, le plus grand personnage. Et donc de ce personnage, Till, dont Daniel Kellmann, jeune auteur allemand que j'aime beaucoup, notamment parce qu'à chaque roman, il réinvente un genre, il réinvente une histoire. Et bien là, donc, il nous met dans cette Allemagne du XVIIe siècle et l'Europe du XVIIe siècle, d'une part extrêmement développée, extrêmement raffinée, et de l'autre d'une extrême violence. Et c'est ça que raconte l'histoire de Till, enfant de meunier qui plusieurs fois va être maltraité, où il voit sa mère mourir à 30 ans de son 8e enfant, et qui va, voilà, être porté par cette grâce du funambulisme et cette grâce du spectacle qui va lui faire traverser aussi toute cette Allemagne. Marqué par la guerre de 30 ans et par les guerres incessantes de ce XVIIe siècle européen.
Till, Daniel Kellmann, s'est édité chez Actes Sud. Et enfin, troisième et dernier coup de cœur d'Auriane Joncourt du magazine Transfuge.
Oui, et alors c'est un peu un tour d'Europe, hein, je m'en rends compte en vous parlant, puisque c'est un roman qui se passe à Londres, dans le Londres d'aujourd'hui, et qui est signé Guy Gunnar Atné. Alors Guy Gunnar Atné, c'est un jeune auteur anglais, c'est son premier roman qui a été shortlisté pour le Man Booker Prize, ce qui pour un premier roman est assez exceptionnel. Il est d'origine sri-lankaise et il a grandi à Londres, dans les quartiers populaires de Londres. Son roman s'appelle « Au rythme de notre colère » et c'est vraiment le mot « rythme » qu'il faut retenir là puisqu'il fait un travail sur la langue populaire, la langue des cités anglaises d'aujourd'hui qui est exceptionnelle. Dans un roman choral, il va y avoir 7 ou 8 personnages. Il part d'un fait divers qui a eu lieu en 2015. Un soldat a été tué, a été massacré par des jeunes d'une cité anglaise alors qu'il traversait la cité. Et il va montrer cette colère et dans la langue, magnifiquement traduite d'ailleurs, dans
ouais,
la langue...
Parce qu'il faut que ce soit bien traduit pour...
Ah bah oui, sinon ça marche pas. Et c'est dans cette langue qui mêle évidemment les mots des pays d'origine, puisque ce sont évidemment des populations extrêmement mélangées. Lui est sri-lankais, donc il y a un personnage d'origine sri-lankaise, mais il y a aussi un personnage du monde arabe, il y a aussi un personnage qui vient de Chine. Enfin, vous voyez, il y a tous ces personnages-là et qui créent leur propre langue avec une jouissance pour lire et pour dire qui est exceptionnelle, mais aussi avec une violence qui est permanente et qui va aboutir au meurtre qui est raconté.
Au rythme de notre colère, c'est édité chez Grasset. Merci beaucoup, Auriane Joncourt, pour vos lectures et recommandations.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Corinne Amar à la coordination, Vincent Bouchard à la réalisation. Le réveil culturel de ce matin a été fait en compagnie de Guillaume Ledu à la prise de son. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Passez une bonne journée avec France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture. LSD, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Les trois quarts des Français jouent aux jeux vidéo, alors qu'on les accuse de rendre idiots, d'isoler, voire de fabriquer des terroristes. Pourtant, si on écoute les joueurs et les concepteurs, le jeu vidéo est devenu un patrimoine comme les autres, qui est là pour nous raconter des histoires et se faire des amis dans la vraie vie. Cette semaine, LSD vous emmène dans le monde réel du jeu vidéo.
LSD, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les professions libérales sont appelées à se mobiliser ce lundi contre la réforme des retraites, alors que le texte arrive aujourd'hui aussi à l'Assemblée nationale. Une commission spéciale doit l'étudier, mais 22 000 amendements ont été déposés. L'opposition veut bloquer l'examen de la réforme qu'elle juge inaboutie et bâclée, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous nous pencherons aussi sur un nouveau portail numérique qui permet d'évaluer les besoins des travaux d'intérêt général, et cela selon les régions. Et puis, quelle propagation du coronavirus en ce début de semaine? Plus de 360 personnes sont décédées en Chine. Plus de 14 000 sont contaminées. Nous ferons le point dans ce journal. Voilà donc la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. La commission spéciale va commencer à examiner le texte cet après-midi. Un texte décrié par l'opposition car il ne contient pas toute la réforme. Reste encore à négocier avec les partenaires sociaux le financement du futur système de retraite. Financement qui ne sera pas acté avant 3 mois. Pour s'opposer au texte présenté par le gouvernement, 22 000 amendements ont donc été déposés. La grande majorité d'entre eux, 19 000, émanent de la France insoumise qui souhaite faire obstruction au projet. C'est regrettable pour le rapporteur général du texte, le député La République En Marche du Val-de-Marne, Guillaume Gouffier-Chat.
Je pense qu'il y a une volonté de show, il y a une volonté de personnaliser le débat autour d'un groupe. Le sujet des travaux de commission comme de l'hémicycle, ce n'est pas l'avis d'un parti politique en particulier, la France insoumise, mais c'est l'avis de nos concitoyennes et nos concitoyens et de l'explication du système universel de retraite. Il peut y avoir des inquiétudes, bien entendu, sur ce futur système, mais c'est un système qui va être plus juste. Et donc, moi, je déplore toutes celles et tous ceux qui dégradent le travail parlementaire en voulant effectivement empêcher le débat, parce que c'est ça qu'il y a derrière.
Mais à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que la France insoumise qui s'oppose au texte. Le groupe Les Républicains a de son côté déposé 1 millier d'amendements contre cette réforme des retraites. Le député Philippe Gosselin veut ainsi dénoncer les conditions de l'examen.
On a un débat parlementaire qui va être en réalité tronqué, puisqu'on aura 15 jours en séance publique. On va avoir 8 jours, pas plus, de débat en commission spéciale. C'est pas sérieux que d'ailleurs il y ait de l'obstruction ou qu'il n'y ait pas d'obstruction. On ne réforme pas les retraites avec une approche systémique comme souhaite le faire le gouvernement en quelques petits tours de passe-passe. D'autant, encore une fois, qu'il y a un problème de fond essentiel et de méthode. On va débattre d'un texte qui n'est pas bien écrit, le Conseil d'État l'a déjà indiqué, d'un texte qui a besoin d'être très largement complété, d'où les 29 ordonnances, c'est du jamais vu, et dont on aura en plus, excusez du peu, ça concerne le financement 320 milliards d'euros, dont on n'aura pas les éléments de financement, puisque ces éléments vont être mis à plat avec le retour à l'équilibre à horizon 2027, etc., jusqu'en avril, avec les travaux de la conférence de financement. Donc on a deux lièvres à la fois, c'est vraiment de l'amateurisme, et on casse un système sans apporter de vraies réponses. Et en tout cas, au-delà des divergences de fond qui me paraissent légitimes, on ne va surtout pas avoir un débat serein, parce que le débat, tout est fait pour l'escamoter encore une fois.
Des propos recueillis par Sophie Delpont alors que l'examen en commission spéciale commence donc cet après-midi. La réforme des retraites, elle divise au Parlement autant qu'elle mécontente dans la rue. Ce lundi, un appel à la grève et à la manifestation est lancé par le collectif SOS Retraite, collectif de profession libérale. Cela concerne entre autres les avocats, médecins, infirmiers ou pilotes de ligne. Ces professions veulent conserver leur caisse de retraite autonome, dotée actuellement de confortables réserves financières. Un nouveau procès s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris pour Isabelle et Patrick Balkany. Il s'agit du volet blanchiment de fraude fiscale. En première instance, je vous le rappelle, le maire de Levallois-Perret avait été condamné à 5 ans de prison, 4 ans d'emprisonnement à l'encontre de sa femme Isabelle Balkany. C'était une des mesures de la loi de programmation de justice menée par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, la création d'une agence nationale du travail d'intérêt général. générale. Elle a été expérimentée sur 4 sites et cette structure s'applique maintenant sur tout le territoire, depuis samedi en tout cas. À travers un portail numérique, les juges pourront connaître en temps réel la disponibilité des offres de travaux d'intérêt général. Nous en venons maintenant à cette vingtaine de rapatriés arrivés de Chine hier. Des Français qui sont restés hier soir à l'aéroport d'Istres, attendant le résultat de tests. Ils présentaient en fait des symptômes de contamination au nouveau coronavirus, selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Les résultats devraient être connus dans la journée. Nous faisons le point ce matin avec Sophie Bécherel sur les derniers chiffres et les derniers rapatriés.
Parmi les 254 personnes arrivées hier en provenance de Wuhan, il n'y avait que 64 Français. Une partie des étrangers ont poursuivi leur voyage en direction de leur pays. 124 ressortissants non européens resteront en France. Ils feront leur quarantaine soit dans le village de Carry-le-Rouet pour les familles, soit près d'Aix-en-Provence pour les célibataires et familles sans enfants au centre de formation des officiers pompiers. Si certains s'avéraient contaminés ces prochains jours, ils seraient alors orientés vers l'hôpital de la Timone à Marseille. À 99%, les cas sont donc recensés en Chine aujourd'hui. La Chine avec qui la communication et le partage d'informations sont excellents, a déclaré hier soir Agnès Buzyn. Pour autant, a confirmé la ministre de la Santé, il reste des incertitudes sur le coronavirus, le délai précis d'incubation par exemple ou encore sa dangerosité. Elle a confirmé la tenue prochaine d'un G7 santé. Il s'agit de coordonner les efforts et de se préparer à aider les pays au système de santé fragile.
Car le virus s'est en effet propagé dans 24 pays au total. 14 600 cas ont été recensés, dont 99% en Chine, où le coronavirus a tué 361 personnes. Un seul décès en dehors de la Chine a été constaté aux Philippines. Emmanuel Macron entame en fin de matinée tout à l'heure un séjour de 2 jours en Pologne. Ce sera la première visite du président français dans ce pays dirigé depuis 2015 par les nationaux conservateurs du PiS. Il s'agira en fait de renouer le dialogue en dépit des multiples points de friction, Louise Bonnet.
D'un côté, les valeurs de la démocratie qu'Emmanuel Macron aime à célébrer. De l'autre, les réformes controversées de la justice menées par les nationaux populistes au pouvoir à Varsovie. Longtemps, le choc a été frontal et assumé, notamment pendant la campagne des européennes, façon progressiste contre populiste. La grande dépendance de la Pologne aux énergies fossiles aussi, et ses réticences à s'engager vers la neutralité carbone en 2050. Il bloque tout, tranche il y a quelques mois le président français, qui sur le dossier migratoire tense ses pays d'Europe centrale et orientale si peu solidaire avec les pays de premier accueil. Mais voilà, la Pologne, 5e pays européen par sa population et 6e par son PIB, est d'autant plus incontournable que le projet européen est en panne. Sans elle, impossible d'avancer, reconnaît l'Élysée. Il faut donc composer, valoriser les convergences plutôt que ruminer les divergences, rebaptiser malentendu qu'il s'agirait de lever. La tâche s'annonce rude. Le rapprochement souhaité par Emmanuel Macron avec la Russie passe mal dans l'expérience pays communiste, ses critiques sur l'OTAN également, car la Pologne veut rester sous le parapluie américain et achète d'ailleurs outre-Atlantique ses avions de combat. 35 appareils commandés vendredi, à 3 jours de la visite du président français, tout un symbole.
Louise Baudet qui suivra donc pour France Culture ce déplacement d'Emmanuel Macron en Pologne. Le responsable de l'attaque au couteau qui a fait 3 blessés hier à Londres avait déjà été condamné pour diffusion de propagande islamiste. Il venait de sortir de prison, selon les médias britanniques. Cette attaque est survenue un peu plus de 2 mois après une attaque au couteau revendiquée là par le groupe djihadiste État islamique qui avait fait 2 morts en plein centre de Londres. Cette attaque il y a 2 mois avait alors conduit le gouvernement conservateur à alourdir les peines pour les auteurs d'actes terroristes en Grande-Bretagne. En Suède, c'est un autre phénomène qui inquiète la police. L'utilisation d'explosifs dans la guerre entre gangs pour impressionner ses adversaires ou tout simplement pour montrer son pouvoir. En 2019, l'année dernière, 225 explosions ont été recensées dans tout le pays, soit une augmentation de 60% par rapport à 2018. Et cela continue, Frédéric Faux.
Le 13 janvier dernier, les Suédois stupéfaits ont pu voir à la télévision les images d'un immeuble résidentiel de Stockholm avec son rez-de-chaussée en partie détruit, la porte d'entrée arrachée, les fenêtres défoncées et les voitures garées sur le trottoir couvertes de gravats. Une véritable scène de guerre. Il y a eu depuis d'autres attaques à l'explosif en Suède, mais celle-ci a frappé l'opinion car elle a touché Östermalm, un quartier chic de Stockholm, et qu'il s'agissait d'une des explosions les plus puissantes touchant la capitale suédoise. On l'a entendu à plusieurs kilomètres à la ronde. les gangs en Suède ont adopté une pratique venue d'ex-Yougoslavie, une zone où depuis les années 80 et jusqu'à aujourd'hui, les armes circulent plutôt facilement, notamment les grenades et les explosifs. Selon les autorités, le but de ces attentats n'est donc pas de tuer, mais d'impressionner, de montrer son pouvoir. Face à leur multiplication, elles ont cependant décidé d'agir. Lutter contre ces attentats, c'est d'abord lutter contre les gangs. Et une opération spéciale baptisée Rimfrost a commencé en novembre à Malmö, dans le sud du pays, avec des groupes de policiers spécialement entraînés, des moyens supplémentaires. De nouvelles lois, qui entrent en vigueur cette année, permettront également à la police de poser des caméras de surveillance sans autorisation et d'écouter les téléphones des suspects.
C'était Frédéric Faux en Suède pour France Culture. De la pluie au nord de la Loire, un grand soleil au sud, la météo du jour est plutôt binaire. Ce lundi, avec des températures douces et homogènes, il fait ce matin 10 degrés à Lille et Brest, 12 à Paris, Strasbourg, Bordeaux et Lyon, 17 degrés à Perpignan. Il est 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, c'est assez inhabituel pour être signalé. Ouais. Près de 70 revues, notamment de sciences humaines et sociales, se sont déclarées en lutte ou même en grève contre la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche.
Oui Clara, et aussi contre la réforme des retraites qui pénalise les chercheurs. Comme l'indique Isabelle Tisse-Saint-Jean sur le site AOC, si le gouvernement ne reprend pas à son compte les chiffres donnés par plusieurs syndicats qui estiment à la baisse de pension à plus de 30% par rapport au système actuel, il acte dans l'étude d'impact accompagnant la réforme le fait que ces personnels seront effectivement des perdants de la réforme. Mais le fond de l'affaire concerne la situation actuelle de la recherche et de l'enseignement supérieur qui souffre d'un déficit chronique de financement, se traduisant notamment par une baisse des recrutements de l'ordre de 38% entre 2008 et 2016 dans les principaux organismes de recherche, avec un accroissement considérable des CDD. L'annonce de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de revaloriser les salaires des nouveaux entrants, qui passeraient de 1,34 à 2 SMIC, ne peut masquer le fait que son objectif affiché d'atteindre les 3% de PIB pour la recherche à la fin de la loi de programmation, eh bien ces 3%, la France devait les atteindre en 2010. Concrètement, pour les revues scientifiques, se mettre en grève, cela signifie qu'elles cessent d'examiner et de publier des articles jusqu'à nouvel ordre. L'objectif est aussi d'attirer l'attention sur tous les personnels, ingénieurs d'études ou secrétaires de rédaction, formés au métier de la documentation et de l'édition, sans lesquels les revues académiques, en tant qu'objet physique ou numérique, n'existeraient pas. Avec les scientifiques qui évaluent les textes, les discutent, les amendent ou les rejettent, ils contribuent à une économie de la connaissance efficace, comme le souligne la tribune collective publiée dans Le Monde, une économie soutenue par les bibliothèques universitaires qui achètent les revues à l'unité ou en bouquet sur des plateformes numériques. Cette offre en ligne, gratuite pour les étudiants, permet une diffusion hors du champ universitaire. Les journalistes, ainsi que les enseignants, les associations, les élus, les citoyens, bénéficie d'un apport substantiel de connaissances fiables et renouvelées. Une économie donc adossée à une infrastructure invisible, celle du service public de la recherche, et tout est lié. Ce sont alors le site La Vie des Idées publie un dossier complet intitulé « La recherche est un bien commun ». La loi de programmation pluriannuelle de la recherche y est en ligne de mire. Le mécontentement gagne les laboratoires, les revues et les personnels qui s'inquiètent des mesures annoncées. Les évaluations seraient plus nombreuses, les financements de moins en moins pérennes, le statut des enseignants-chercheurs pourrait être réévalué. Le modèle américain, vanté par nos décideurs hexagonaux, mérite du coup d'être examiné, comme le fait Pierre Gervais. Aux États-Unis, les partenariats université-entreprise restent un sujet marginal. Les discussions portent principalement sur le rôle de l'État. État fédéral, experts, grands patrons, présidents d'université, membres du Congrès, tous réclament plus de moyens publics pour financer la recherche. La recherche appliquée, financée par les budgets privés de recherche et développement, se fait essentiellement en entreprise et la recherche fondamentale n'attire pas les fonds privés. Reste le modèle managérial d'évaluation et de mise en concurrence, mais comme le rappelle ce professeur de civilisation américaine, les chercheurs français sont bien placés pour savoir que cette cette tendance n'a rien de particulièrement américain. De plus, assez ironiquement, ajoute-t-il, ce processus baptisé « américanisation » de ce côté-ci de l'Atlantique est tout aussi critiqué aux États-Unis. Peggy Sénac, Claire Lemercier, Alexandre Zimmer dénoncent par ailleurs le fait que les politiques publiques françaises concentrent les moyens de recherche sur quelques sites aux dépens de régions entières, creusant les inégalités entre universités dites d'élite et d'autres de masse. Une politique dont de nombreux travaux empiriques démontrent l'inefficacité. La mathématicienne, la sociologue des organisations et le physico-chimiste des matériaux, tous trois au CNRS, citent notamment une étude québécoise qui a mesuré la relation entre les financements versés à plus de 12 000 chercheurs de toutes disciplines entre 1998 et 2012 et leur nombre de publications et de citations en revue. La plupart des chercheurs fortement dotés ne se distinguent pas spécialement. En conséquence, les auteurs suggèrent de donner plus de petits financements à davantage de chercheurs, une recherche plus fertile en somme, avec davantage d'égalité dans la distribution des fonds. Comme le conclut une autre étude, si le recours aux appels à projets compétitifs pour un groupe de recherche a une vocation instrumentale, il ne doit pas constituer son but. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la question palestinienne est-elle toujours la cause arabe centrale?
Et la cause arabe centrale, la journaliste Ala Khodmani rappelait récemment dans Libération que c'était l'expression employée depuis des décennies dans les discours officiels arabes, dans des pays dont on peut s'étonner qu'ils aient été aussi longs à réagir au plan que Donald Trump a présenté la semaine dernière, plan dit de paix, mais dont tous les observateurs assez unanimement ont relevé son asymétrie en faveur d'Israël, avec un président américain qui s'octroie le droit d'attribuer à un allié, donc en l'occurrence l'État hébreu, une souveraineté sur un territoire qui n'est pas le sien. D'après ce plan, il existerait bien un État palestinien, mais morcelé par les colonies et amputé de la vallée du Jourdain. Si les pays arabes ont mis du temps à se prononcer officiellement et surtout collectivement sur ce plan, ils ont finalement déclaré leur rejet ferme et unanime. C'était samedi au Caire, lors d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe. Bonjour Jean-Paul Chagnolo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités et président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Ce rejet de la Ligue arabe, Jean-Paul Chagnolo, c'est un rejet d'après vous pur et simple ou c'est un rejet pour la forme? Est-ce que vous avez l'impression que les pays arabes ont vraiment fait corps pour défendre les Palestiniens et Mahmoud Abbas ou vous n'y voyez que des éléments de langage?
Non, je crois que ça va un peu plus loin que des éléments de langage. Bien entendu, il y a de très fortes contradictions, à la fois entre les différents États arabes et puis même à l'intérieur de chacun de ces pays arabes. Mais clairement, c'était pas évident qu'ils parviennent à une telle position, mais ça montre quand même que la question palestinienne reste quelque chose de tout à fait central dans les opinions publiques. Et quand on prend la question palestinienne, il y a différents aspects, ça dépend des pays. Mais il est clair que ce qui soude le tout, c'est le rapport à Jérusalem. On voyait mal un pays comme l'Arabie Saoudite, quelles que soient ses relations avec les États-Unis, dire officiellement qu'il acceptait l'idée qu'on abandonnait pour le monde musulman Jérusalem, par exemple. Et ensuite, si on décline pays par pays, on voit aussi que dans certains pays, certains aspects du plan sont tout à fait inacceptables. Donc, même s'il n'était pas évident qu'il parvienne à cette position, on voit bien tout de même le retour d'une forme de centralité de la question palestinienne, parce que au fond, comme vous l'avez dit dans votre présentation, ce plan Trump va tellement loin qu'il n'est pas acceptable. Vous avez très justement dit que Trump s'octroie le droit de donner un territoire à Israël, un territoire qui évidemment n'est pas le sien, et sur aucune espèce de base juridique, et moins encore sur une base de véritable négociation. Donc c'est en fait une aberration du point de vue du droit international et des relations internationales plus généralement.
Et ce refus donc unanime collectif de la Ligue arabe de samedi, est-ce que justement c'est une manière de dire à Donald Trump que cet unilatéralisme, cette politique déclaratoire, comme on l'a entendu hier par les invités de l'Esprit public, notamment chez Émilie Aubry, ça n'est pas possible, que ça ne peut pas se faire sans eux, avec pour corollaire, parmi ces pays signataires de ce refus samedi, il y a quand même des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis qui sont censés être les bailleurs de fonds de ce plan, puisque Donald Trump Trump compte sur eux pour investir 50 milliards de dollars sur 10 ans dans les territoires palestiniens.
Oui, c'est ça. Ils ont d'ailleurs très clairement dit qu'ils ne collaboreraient pas à la mise en œuvre de ce plan. Ils l'ont dit dans leur communiqué très clairement, et donc ça signifie effectivement que cet argent que Trump promet, c'est pas le sien pour une grande partie, ça sera celui des États arabes. Donc là, il se retrouve avec une position unanime, et on voit mal justement comment les pays arabes, comme l'Arabie Saoudite, vont pouvoir financer quoi que ce soit, dès lors qu'ils ont effectivement annoncé qu'ils ne le feraient pas. D'ailleurs, il y a eu une conférence il y a quelques mois qui avait été une forme d'échec aussi. On voyait bien les contradictions qui apparaissaient. Maintenant, juste un mot sur deux ou trois pays pour préciser les choses, parce que l'Arabie Saoudite, c'est évidemment une situation particulière et une puissance notamment financière. Mais si je prends par exemple le Liban qui est tout de même un pays bourré de contradictions, on le voit avec les grandes manifestations qui ont lieu en ce moment, eh bien, le Liban unanimement a rejeté le plan. Évidemment, le Liban est lié à l'Iran dans la mesure où le Hezbollah joue un rôle majeur là-bas, mais aussi, il y a une question qu'il ne faut pas oublier, c'est que jamais les Libanais, quelle que soit leur sensibilité et leur appartenance communautaire, n'acceptent l'idée que les réfugiés palestiniens qui s'y trouvent, au moins 200 000, eh bien, puissent rester définitivement au Liban et soient en quelque sorte abandonnés au Liban. Donc rien que pour cette raison-là, le ministre des Affaires étrangères libanais a bien clairement dit qu'il n'était pas question d'accepter le plan de Trump. Si on prend la Jordanie, c'est un autre exemple où là, ce plan pour la Jordanie est une véritable catastrophe parce que par conséquence immédiate, eh bien, ça peut déstabiliser le régime de Hussein, notamment sur un point aussi central qui est les lieux saints, puisqu'ils sont les gardiens des lieux saints et le plan Trump clairement remet en question le statu quo sur les lieux saints. En permettant aux Juifs de pouvoir y aller prier, ça veut dire que ce n'est plus du tout ce qui était jusqu'alors accepté depuis fort longtemps. Donc tout ceci, si on prend pays par pays, on voit bien que malgré tout ce qu'on pouvait penser, ils ne peuvent pas accepter un tel plan.
La Jordanie qui a eu une voix forte lors de ce sommet de la Ligue arabe au Caire, puisque elle s'est dit prête à dénoncer les accords de 94, accord avec l'État hébreu, que l'Égypte a également signé un peu plus tard. En tout cas, l'Égypte et la Jordanie sont des pays qui ont signé des accords avec l'État hébreu, des accords de paix, qui pourraient être mis en cause vraiment là dans les semaines qui viennent.
Ce sont des traités de paix, c'est pas simplement des accords, comme vous le dites très, très justement, ce sont des traités de paix, c'est-à-dire qu'ils ont normalisé. L'Égypte, ça date de 1979, il faut le rappeler, et la Jordanie, c'est 1994. Alors pour l'Égypte, je pense pas qu'il puisse y avoir un risque de remise en question, pour plein de raisons qu'on peut pas évoquer ici. Mais sur la Jordanie, oui, ça peut. Le risque de déstabilisation de la Jordanie est tel que le traité de paix ne sera sans doute pas remis en question, je pense pas qu'on aille jusque-là, mais au moins qu'il y ait la menace de cette remise en question, parce que le régime jordanien est tout de même très très fragile, malgré son apparente stabilité. Par conséquent, il n'a pas du tout intérêt à ce qu'une telle accord soit remis en question, et que si Trump installe son plan, ce qui est à mon avis de façon impossible, eh bien le régime jordanien pourrait se retrouver dans une situation extrêmement délicate. Donc voilà, on est dans ces espèces d'équilibre. Il faut bien comprendre que ce plan Trump déstabilise profondément la question israélo-palestinienne et tout ce qu'il y a autour, et par conséquent les pays comme la Jordanie.
Le plan Trump. La Jordanie, oui, qui voit d'ailleurs un président américain vouloir remettre à Israël la souveraineté sur la vallée du Jourdain, cette zone stratégique à la frontière orientale de la Cisjordanie, et qui jouxte la Jordanie. La Jordanie a mis fin cet automne aux prêts de deux enclaves à Israël que des kibboutzniks cultivaient depuis des années. Donc on voit des rapports de force commencer à changer doucement, ou c'est l'écume?
Je crois que c'est plus que l'écume, ça peut être des problèmes de fond. Parce qu'en fait, si on regarde bien le plan Trump, il y a toute une série d'éléments. Quand je dis déstabilisation, c'est au sens très fort du terme. Par exemple, il y a un point dont on n'a pas encore parlé, et dont on a parlé très peu d'ailleurs dans la presse, même si ça a été évoqué évidemment, c'est le fait que le plan Trump prévoit de transférer une partie du territoire israélien, ce qu'on appelle le triangle, dans la région d'Oum el-Fahem, par exemple, vers un État palestinien qui reste un État absolument en creux, qui n'est pas véritablement un État. Mais ça veut dire qu'on prendrait près de 250 000 Arabes israéliens, citoyens d'Israël aujourd'hui, et on les mettrait dans le territoire d'un État palestinien. qui de toute façon une coquille tout à fait vide malgré tout. Donc c'est déjà un élément déstabilisant considérable. Et il y a eu des manifestations en Israël là-dessus. Et puis si on continue, juste un deuxième point, c'est que s'il y avait des annexions de la vallée de Jourdain dont vous venez de parler, ça veut dire qu'il y a près environ 300 000 Palestiniens qui seraient donc sous la souveraineté israélienne. Et évidemment, ces Palestiniens n'auraient aucun droit politique. C'est ce que le gouvernement israélien a cessé de répéter. Il n'est pas question de donner de droit politique aux Palestiniens dans les zones annexées. Donc, vous auriez plusieurs sources de déstabilisation profonde. Et donc, une déstabilisation de la situation et donc de la région. Donc, vous voyez, si on regarde dans le détail, ce plan est extrêmement préoccupant. C'est le moins qu'on puisse dire pour la stabilité. Et donc, c'est normal qu'au fond, il y ait cette levée de bouclier dans le monde arabe, mais aussi en Israël. Alors évidemment, au premier rang sont les Palestiniens, c'est la vraie soi.
Jean-Paul Chagnolot, on parle beaucoup des représentations diplomatiques des gouvernements de ces pays arabes, dont certains se sont d'abord montrés, ont témoigné d'un silence un peu gêné, puisque l'hostilité presque commune de ces pays avec l'Iran a rebattu les cartes des relations de ces pays avec Israël et avec les États-Unis. On a moins parlé des peuples de ces pays qui, quand même, se sont très peu manifestés, se sont très peu soulevés après la présentation de ce plan, et notamment dans les territoires palestiniens. Il n'y a eu aucune réaction, à ton impression, à lire la presse sur place. Comment vous expliquez ce silence? Est-ce que peut-être les Palestiniens... Alors, la division de l'autorité palestinienne, du Fatah et du Hamas entre Gaza et Cisjordanie, bien sûr, mais peut-être ces 50 milliards d'euros de dollars d'investissement sur 10 ans, peut-être étaient-ils attendus?
Non, ça, je crois que personne n'y croit. Et moins encore après le refus qu'on vient d'évoquer. Non, mais je pense qu'il y a dans les territoires palestiniens, je pense surtout à la Cisjordanie, pour Gaza, la configuration est différente, mais il y a une énorme lassitude, une grande fatigue. Quoi. On s'est battu depuis tant d'années avec si peu de résultats. Donc, notamment dans la jeunesse, il y a une espèce de volonté tout à fait compréhensible d'essayer de trouver sur le plan individuel un avenir meilleur, sachant que sur le plan politique, les choses sont bouclées et bouchées, d'autant plus que le gouvernement d'Abbas, l'autorité palestinienne, est extrêmement discrédité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y avait ces derniers temps la mise en place d'élections. Je ne sais pas si elles auront lieu parce que c'est très compliqué, mais c'est fondamental que l'autorité palestinienne se ressource. Mais ce silence dans la rue ne signifie en aucune façon l'acceptation. Il y a une espèce d'haussement d'épaule désabusé, mais fondamentalement, il refuse ce plan Trump, qui malgré tout, il faut le dire aussi, est déjà une réalité. L'annexion de la vallée du Jourdain est une forme de réalité. Donc,
Jean-Paul Chagnolot, pardon. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'IREMO et je vous souhaite une bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et le Cercle des économistes lancent la nouvelle édition du concours La Parole au 18-28 dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Au cœur de l'actualité, l'économie est un enjeu d'avenir. Vous avez entre 18 et 28 ans et souhaitez faire entendre votre voix au plus grand forum économique de France? Inscrivez-vous en ligne sur laparoleau18-28.fr et faites partie des lauréats. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, les matins commencent, arrivent,
bonjour Guillaume Bernard, bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous.
6h57, c'est votre humeur du jour. Guillaume, on peut être d'accord, dites-vous, ce matin avec Éric Drouet, l'un des leaders des Gilets jaunes.
Et oui, Éric Drouet s'est offert une magnifique Jaguar Type R. Il présente ce bolide de plus de 400 chevaux dans une vidéo. Il a modifié le pot d'échappement, l'un des derniers V8 de la planète. Julie, vous savez, le moteur V8 étant l'équivalent d'une centaine de terrasses chauffées à un V8, comme le dit Éric Drouet dans la présentation de cette nouvelle voiture. Ça consomme des tonnes à une époque où un moteur doit picorer des grammes. Alors bien entendu, cette acquisition fait jaser. À quoi bon occuper les ronds-points pendant des mois? À quoi bon défiler sur les Champs-Élysées pendant des semaines sur les thèmes des fins de mois difficiles si l'on en est réduit à s'acheter des Jaguars et pas des Bentley, diraient certains. Une preuve de plus, en tout cas, que les Gilets jaunes ne voulaient pas changer le système, mais voulaient changer de voiture. Même s'il s'agit d'un mouvement composite où toutes les motorisations étaient acceptées, faire des Gilets jaunes un mouvement de marxistes convaincus relève de la projection pure et simple. En tout cas, Éric Drouet, présentant sa Jaguar, ne peut pas être perçu comme un bolchevique impénitent. En revanche, il appartient à une culture dominée, une culture que l'on ne comprend pas dans le 75, même si on la pratique dans le 77, car dans le 75, à quelques exceptions près, dont je suis, l'amour du V8 ressemble à une quasi-perversion. Aimer les V8 dans un monde de vélo, aimer le tuning, vous savez, la pratique des voitures modifiées, vouloir transformer l'échappement de sa Jaguar quand Paris se rêve en Tesla électrique, voilà qui crée un véritable antagonisme de France qui se double sur les routes, c'est Eric hein, qui double puisqu'il est en Jaguar type R et ne se parle pas. Comme le disait Pierre Bourdieu, le sociologue, le tuning est un loisir classé et classant avec une place de plus en plus restreinte pour ceux qui aiment les V8 dans un univers de pistes cyclables. C'est cela, appartenir à une culture dominée, participer non pas à la lutte des classes mais à la lutte des loisirs classés, non plus à la lutte des classes mais à la lutte des places pour garer sa voiture tunée.